Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Hier soir, vers 20h30, j'étais confortablement installé dans mon canapé à regarder les premiers épisodes d'OVNI, la série avec Melville Poupeau dont nous allons parler aujourd'hui, et à me régaler de cette atmosphère rétro-futuriste, toile de fond des pérégrinations d'une équipe de bras cassés dans les années 70 à la poursuite d'hypothétiques petits hommes verts. Une série tout public et qui semblait également fasciner mes deux chats, Morissette et Pfizer, qui en ronronnaient de plaisir quand une alerte m'avertit que le Capitole était en cours d'invasion par des agités trumpiens. Je mis la série sur pause, basculais sur une chaîne info et tombais sur cet énergumène coiffé d'une peau de bête avec cornes de bison intégrées, maquillé comme un supporter pour la finale de la Coupe de fin du monde, torse nu abondamment velu, bas de jogging et mégaphone à la main et surexcité par sa conviction d'être en train de bousculer l'histoire au cœur même du bâtiment symbolique du pouvoir américain. Je suis passé alors par la gamme d'émotions partagées par tous, sidération, effroi, indignation, pour finir par revenir, à moitié rassuré, à ma série OVNI. Une série rétro-futuriste, vous disais-je. À tout prendre, c'est bien mieux, croyez-moi, qu'une réalité apocalypto-bordélique. Avec Melville Poupeau en plus, exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Pop, pop, pop. En ce jeudi 7 janvier de cette année, Dromède, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, elle est ma Dana Scully. Je suis son Fox Mulder. Charline Roux, bonjour.
Bonjour Antoine, et je vous rappelle que la vérité est ailleurs.
Au menu donc de Pop Pop Pop. Nous allons parler d'activité paranormale avec la nouvelle création de Canal+, OVNI. Bonjour Melville Poupeau.
Bonjour.
Ah, c'est la radio, non?
Ah oui, c'est la radio, à fond. Avant de discuter de soucoupes volantes, de bonshommes tout verts et d'OVNI, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué, Melville, parmi les pop événements de ces dernières 24 heures. Est-ce l'homme buffle, donc triste star de Twitter hier soir, après son incrustation dans le Capitole, torse nu avec un animal mort sur la tête, et qui a poussé Christophe Comte à se demander si le délire préhistorique de Julien Doré n'allait pas un peu trop loin.
Où est-ce cette année qui semble déjà partir totalement en vrille, et ce en quelques jours, puisqu'on a déjà entendu Booba rapper sur le morceau Barbie Girl.
Ou bien est-ce cet ovni en forme de verre géante aperçu il y a quelques jours dans le ciel d'Hawaï par des centaines de personnes? Alors, laquelle de ces trois infos?
La dernière. Ça m'intéresse vraiment.
C'est une info absolument authentique. Hein.
Bah, mais lui, il le fait bien en plus. Il imite bien le Jacques Villeray.
Ah oui, parle de cet ovni qui a été aperçu il y a quelques jours dans le ciel d'Hawaï.
Ben voilà, une enquête pour le GEPAN.
Vous allez fort pour la promo quand même. Hein.
Bah écoute, on a les moyens, Canal Plus.
Vous êtes prêts à tout. On va en parler de pop, on va parler de culture, de pop culture avec des vrais morceaux de bizarre dedans, je vous promets. Et de tout ça, on va donc parler dans la suite de Pop Pop Pop, mais juste après Are We Alright Again, c'est un morceau du groupe américain Hills.
Up there. Well, don't you know? It's
not that far.
Quatre lettres qui font résonner le rock expérimental de Los Angeles et c'était le morceau Are We Alright Again. Nous sommes aujourd'hui avec un invité dont le système pileux s'est inspiré de celui de Freddie Mercury pour les besoins du tournage de la série dont nous allons parler. Mais qui est-il ? Eh bien, réponse avec son pop portrait. Alors oui, bien sûr, son pop portrait, c'est son portrait, mais... Et il est signé Charline.
Aujourd'hui, un invité à qui je dois présenter de plates excuses. Melville, vous faites partie des trois comédiens à qui j'ai publiquement prédit, ou en tout cas ardemment souhaité, un César pour Grâce à Dieu. Et tout comme pour Vincent Lacoste et Benjamin Laverne, bon bah je me suis vautré. Et il semblerait que je vous ai porté l'œil. Je suis un chat noir, comme vous avec le groupe Black Minou, mais sans la musicalité. Oui, ça devait faire trop pour un seul karma. C'est ma seule explication rationnelle. Vraiment, à part ça, je vois pas. Et ça tombe bien, hein, puisque de raison et d'esprit cartésien et scientifique, il va être question aujourd'hui. Alors, ça ne remplace certes pas une compression en or, mais sachez Melville que je vous donne toutes les récompenses pour la fille de 15 ans, pour les gens normaux n'ont rien d'extraordinaire, pour le temps qui reste, pour Laurence Anyways, pour Victoria, pour votre prestation dans le clip de Résident de la République de Bachung. D'ailleurs, je vous donne aussi une victoire de ma musique pour Songbook, puisque cette histoire de double karma marche aussi quand il n'est pas question de poisse, donc vous, plus violet en ce qui me concerne, c'est banco, et c'est vraiment, vraiment parce que la cérémonie des 7 d'or n'existe plus que je ne vous en donne pas un, et encore une fois, Melville, vraiment désolé.
Pas de souci, sans rancune.
Un mot sur la moustiche, la moustache.
La moustiche.
À la frêle.
À la moustiche.
Non, la moustache, on s'y attache?
Par la force des choses, oui, puisqu'on va rempiler une saison 2 et on est très content pour revenir. Je vais remettre ma moustache, qui est une vraie moustache. Ce n'est pas grosso marque.
Oui, ça se voit.
Et c'était pas tant Freddie Mercury que Burt Reynolds.
Magnum peut-être.
Magnum aussi. Ou Marcello Mastroianni dans les années 70, il en avait une belle aussi. Jean Rochefort, pourquoi pas. Enfin voilà, l'homme des années 70 à la moustache.
D'accord. Melville Poupeau, derrière cette moustache se cache votre personnage, l'ingénieur Didier Mature, qui après l'échec d'une mission spatiale se retrouve à la tête du GEPON, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors oui, détail important pour expliquer la moustache à la Freddie Mercury, vous venez de le dire, c'est l'époque où le président a pour nom Valéry Giscard d'Estaing, bande annonce.
Tu connais le GEPON, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Pas les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPON.
Moi j'y connais rien en ovni.
Mais il existe vraiment ce bureau? Moi je croyais que c'était une blague.
Donc il était comment ce vaisseau?
L'invasion a déjà commencé?
Commandant Valérie Dalbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions.
Mais tu t'occupes des ovnis toi non?
GEPON bonjour.
Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes.
Melville Poupeau, réplique de Michel Vuillermoz, votre collègue de bureau dans la série OVNI, je cite, « Les questions, c'est comme mes fesses sur la lunette des chiottes, c'est moi qui les pose. » On est d'accord?
Absolument, allez-y.
Bon. Bah d'ailleurs, non, je suis pas le seul à poser des questions ici, alors allez-y, Charline, je vous laisse la place.
Oui, alors avec grand plaisir, est-ce qu'on peut déjà partir du principe que la réplique adressée à votre fils de fiction « On n'appelle pas son zizi Pompidou » est d'ores et déjà la meilleure de l'année?
Ah. Ça, alors, c'est... Oui, oui.
Mais non, mais tout ça pour dire qu'OVNI est extrêmement bien dialogué. Est-ce que ça aide à jouer la comédie avec sérieux? Parce qu'en l'occurrence, c'est nécessaire dans cette série.
Ah bah absolument. De toute façon, en général, les bons dialogues, ça aide énormément à mieux jouer la comédie. En tout cas, c'est plus simple à apprendre, c'est plus agréable, bien sûr. Là, on était servis parce que Martin Douer et Clémence Dargent ont fait un boulot incroyable sur le scénario, les dialogues, la construction, l'intrigue et les gags qui font un équilibre très très réussi, je trouve.
Et la comédie, c'est pas un genre dans lequel on vous a vu si souvent. Est-ce que c'est faute d'avoir eu des propositions ou parce que jusqu'ici, ça ne vous tentait que très moyennement ?
Non, ça m'aurait toujours tenté. J'ai eu peut-être moins de propositions dans ce champ-là. J'aurais fait moins moi-même de comédie. Et puis, les quelques comédies que j'avais reçues ne m'ont pas vraiment fait rire, alors que là, j'étais mort de rire dans mon lit tout seul en lisant le scénario. Donc, je me sentais d'y aller, quoi. Disons que je suis pas à la base un acteur comique et je suis pas... On pense pas à moi dans ce registre-là. Là, j'avais besoin d'un scénario bien écrit avec des dialogues, comme vous le dites, bien écrits aussi, qui font mouche, et c'était le cas.
Le GEPAN, c'est un service qui a réellement existé, qui existe d'ailleurs toujours, je crois, en France, pour vous préparer. Alors, il s'occupe de recueillir les témoignages de gens qui disent avoir vu des ovnis. Pour vous préparer, Melville, est-ce que vous avez rencontré les membres de cette unité qui eux-mêmes ont rencontré des gens qui eux-mêmes pensent avoir vu des ovnis? Histoire de l'homme qui a vu l'ours.
Vous l'avez vu, vous, l'ours, dans le...
Évidemment, il y a très très longtemps.
Congrès, ben non, cette nuit-là. Sur Twitter.
Cette nuit,
mais c'était un truc indien plutôt. Il y a un chef indien qui a ce bison sur la tête.
Oui,
bison
absolument, futé. Vous avez raison. Bison futé. Ouais.
Vous me demandiez exactement.
Qu'est-ce que je vous demandais exactement? Est-ce que vous avez rencontré
des GEPAN? Les deux scénaristes avaient fait beaucoup de recherches, eux de leur côté, avaient rencontré les gens du GEPAN, le vrai GEPAN, qui aujourd'hui s'appelle le GEIPAN.
Pareil.
Ils ont changé de nom, ouais. Mais donc eux, ils ont fait toutes des demandes, et puis qu'on ait le droit d'utiliser vraiment leur nom. Et puis certains faits qui ont vraiment eu lieu au sein du GEPAN, comme le départ du premier directeur, qui est parti comme ça un peu spontanément, au bout d'un an seulement, après la création du bureau. Donc eux avaient fait tout ça, moi non, j'ai pas eu besoin. Puis en général, j'essaie pas d'imiter personne quand je joue la comédie, j'essaie plus de moi de trouver le personnage en moi, et de me transformer petit à petit avec mes outils à moi, plutôt que d'essayer de
oui,
me caler sur...
Mais... Melville, vous savez comment ça marche quand généralement quand on joue un flic, bah on va traîner un peu avec des flics. Moi je pense à cette série Le Bureau des légendes, ils ont été très fournis en informations, oui, par la DST, la DGSE. Non, vous préfériez imaginer le personnage.
Absolument. Puis en plus c'est pas du tout aussi sérieux et réaliste que Le Bureau des légendes, c'est quand on reste dans la fantaisie, dans la poésie plutôt. Donc et puis j'avais toutes les clés dans ce personnage qui me correspondait aussi, quoi.
Oui, parce que vous êtes dans la série un personnage très singulier, brillant mais isolé, placardisé, très cartésien parce que scientifique, et confronté aux doudingues de son bureau, les géniaux Michel Villermoz et les jeunes Daphné Patakia et Quentin Dolmer qui sont excellents aussi. Et ces deux derniers s'empressent de préciser que Mature est un nom qui ne vous va pas très bien. Est-ce que OVNI peut aussi se voir comme une rencontre du troisième type, ce troisième type étant « elle est jeune ».
Je pense, comme il l'a dit Antoine, c'est une comédie familiale, oui. Et puis la famille. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il y a l'intrigue principale autour de ces enquêtes et d'un phénomène potentiellement qui va arriver. Et puis en même temps, il y a une histoire de un peu la comédie du remariage avec le couple de Didier Mature et d'Élise Mature, leurs enfants, le père célibataire, le dîner devant la télé, le plateau repas. Enfin voilà, ça aborde beaucoup de questions, quoi.
Et les petits jeunes du bureau, c'est-à-dire qu'il y a deux générations qui s'affrontent aussi.
Ça c'est sûr, mais même sur le tournage, on s'affrontait, parce que moi j'avais très vite l'impression d'être de retour chez moi avec mon téléphone et mon vieux fax, alors qu'eux, ils n'arrivaient toujours pas à imaginer qu'à l'époque on arrivait à vivre et même à faire des enquêtes sur les extraterrestres avec des ordinateurs qui étaient moins puissants qu'un iPhone 1. Donc plus un téléphone qui... Enfin voilà, je veux dire, c'est vrai que la confrontation... Moi, j'ai grandi dans les années 70, donc ça me rappelait plutôt des bons souvenirs. Eux, ils étaient vraiment sur une autre planète, ouais, c'est sûr.
Et alors, en plus des jeunes, vous avez eu des Flamants Roses pour partenaires du jeu. Ne voyez aucune association d'esprit, pour aussi un peu. Est-ce que l'alchimie a opéré avec ces drôles d'animaux?
Écoute, oui, au début, même ils avaient envisagé de faire un robot ou alors des images de synthèse. Et puis, un dresseur d'animaux en Belgique a dit non, mais moi, je suis capable de vous fournir un Flamant Rose qui saura jouer à la comédie. À Chupsout, en l'occurrence. Effectivement, on était tous sous le charme parce qu'il était très docile. Sauf à un moment, il voulait pas manger les crevettes du supermarché. Donc là, on a un peu galéré sur cette séquence, mais au bout d'un moment, il a fait ce qu'on lui demandait.
Un dresseur
de flamants roses. Et même à la fin, il a versé une petite larmichette parce qu'il allait rendre son flamant rose au zoo et ça allait lui manquer.
Donc je vous
conseille de prendre un flamant rose en animal domestique.
Mais, et d'ailleurs, Melville, vous préférez avoir des flamands pour partenaires ou des wallons?
Bah moi, j'aime bien justement parce que la série a été tournée en Belgique. Mm-hmm. Et j'aime bien à Bruxelles cette espèce de. Il y a encore un bar qui est tout à fait wallon. Et puis à côté, les autres n'y vont pas. Enfin, il y a ce côté un peu les rivaux de Penfungulch que moi, j'aime bien.
Dans la série Melville Poupeau, vous conduisez une déesse avec un téléphone comme dans Rabbi Jacob, hein, le tout dans un univers plus 70s que la garde-robe de Patrick Juvet. Comment avez-vous vécu ce retour vers le passé, vous qui, vous le disiez à l'instant, êtes né dans les années 70?
En l'occurrence, la DS, moi qui n'ai pas le permis, c'était difficile à conduire parce que les freins sont spéciaux. Mais sinon, ce que j'ai trouvé bien, et dès le départ, Anthony Cordier, le réalisateur, avait pris ce parti pris, c'était pas de surjouer la reconstitution et de foutre des couleurs flashy partout. Ouais, et
l'orange.
Des coupes de cheveux pas possibles. Donc il a un petit peu tamisé le truc pour qu'on puisse plus suivre l'histoire et s'identifier au personnage sans être en permanence. Dans le côté genre, oh, regarde ça, les couleurs, comment il s'habillait avant, voilà. Le côté moins folklorique. Et puis, comme je disais, sur le tournage, moi j'avais l'impression de revenir chez moi, de ma tendre enfance, quoi. Après, ce qui est intéressant dans la série, c'est que même si ça se passe en 78, ça parle beaucoup de notre époque à nous, et on voit ce qu'on est devenu, si je puis dire, enfin le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les prémices des années 70, les premiers soucis sur l'écologie, le rapport dans la famille, la place de la femme et tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant.
On est vraiment dans un film d'époque, littéralement.
Absolument.
Vous avez déjà joué en costume, Melville, mais qu'est-ce que celui-là vous imposait en termes de jeu, de crédibilité? Parce que la ligne est mince avec la parodie, il fallait surtout pas tomber là-dedans.
Pas boire trop de bière, parce que les costumes sont assez moulants, les pantalons. Et puis, en fait, moi au début, j'avais, comme toujours quand on prépare un film, on se fait des images dans sa tête, on se dit, ah tiens, j'imagine Didier Mature comme ça, je lui verrais bien porter tel costume et tout ça. Et dès les premiers essayages avec Monsieur Canitro qui a fait les costumes, j'ai vu que c'était pas ce que j'avais en tête. Il y avait un côté immanquablement un peu ridicule et un peu comique à se retrouver avec un costard pelle à tarte, les pattes d'ef, le cul un peu moulé, la cravate trop courte. Donc, et je me suis dit, tiens, mais c'est génial, ça va m'aider parce que autant je peux dans une certaine position avoir l'air un peu élégant, ce qu'il fallait pour le personnage de Didier Mature, et en même temps, je tombe la veste ou alors je me tiens différemment et je tombe dans le côté un peu grotesque des années 70. Donc, le costume m'a vachement aidé,
Melville Poupeau, les ovnis sont omniprésents dans la pop culture, ça va, nous le disions, de ce générique mythique X-Files bien sûr, à la soupe aux choux en passant par Alien, mais aussi lui.
Tu as de plus en plus sommeil, oui, tu n'es plus un chat, mais une madeleine.
Qu'est-ce que tu racontes?
Oh bah, tu m'as fait peur.
Alf, évidemment. Quelles sont, vous, vos références en la matière, Melville?
Alf. Alf. J'aime aussi beaucoup les petits bonshommes qui sont saisis par le grappin dans Monstres et compagnie. Et qui, le grappin. Ouais. Ils espèrent être élus. La série, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle visite beaucoup de mythes de l'ufologie et elle visite aussi des références cinématographiques. On pense Rencontre du troisième type, X-Files, enfin voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte qu'à certaines époques, on a changé notre perception des extraterrestres. C'est comme si eux-mêmes avaient évolué avec nous. Et dans les années 70, on imaginait les extraterrestres comme ça. Aujourd'hui, on les imagine différemment. Et puis, il y a cette évolution du temps et de la représentation extraterrestre.
Allez-y, Charlie.
Je ne dévoile aucun secret en rappelant que votre frère porte le nom d'un héros vénusien. Donc, j'imagine que la littérature de science-fiction devait être un peu présente dans votre héritage culturel.
Notre père était passionné de romans de science-fiction.
Melville, vous restez à bord de notre soucoupe, on va parler d'OVNI, on va continuer à parler d'OVNI dans la suite de Pop, juste après un détour par l'année 1983 pour écouter Sweetheart Like You, c'est extrait d'un album de Bob Dylan. Qui vous a fait découvrir Dylan? Infidels.
Well, the press is down, the boss ain't here, he gone north for a while. Say that vanity got the best of him, but he sure left here in style. By the way, that's a cute hat, and it smiles so hard to resist. But what's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know, I once knew a woman who looked like you. She wanted a whole man, not just a half. Call me sweet daddy when I was only a child. You kind of remind me of her when you laugh. In order to deal in this game, got to make the queen disappear. It's done with a flick of the wrist.
What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know a woman like you should be at home. That's where you belong. Taking care of somebody nice who don't know how to do you wrong. Just how much abuse will you be able to take? Well, there's no way to tell by that first kiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know, you can make a name for yourself. You can hear the entire squeal. You could be known as the most beautiful woman who ever crawled across cut glass to make a deal. Even before you came in the door, they say in your father's house there's many mansions, each one of them got a fireproof floor. Snap out of it, baby, people are jealous of you. They smile your face, but behind your back they hiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? To be an important person to be in here, honey, got to have done some evil deed. Got to have your own helm when you come in the door. Got to play your harp until your lips bleed. They say that patriotism is the last refuge to which a scoundrel clings. Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and they make. There's only one step down from here, baby. It's called the land of permanent bliss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this?
Bob Dylan, Sweetheart Like You, extrait de Infidels, et je crois que ça fait plaisir à Belleville Poupée.
Énormément, énormément. Ben, je l'écoute très souvent celui-là en plus.
Ça a été vraiment votre porte d'entrée pour Dylan ?
Non, c'était un album qui s'appelle New Morning. New Morning. Mm-hmm. Mais après oui, c'est vrai que quand j'étais jeune, quand il est sorti, enfin même un peu après, on l'écoutait beaucoup avec mon pote de l'époque, Gaël Barbieri, qui est musicien. Mais je suis pas tombé dylanophile à ce moment-là, c'était plus tard que c'est venu quoi.
J'ai un petit faible hein, pour cet album-là.
Moi, je l'adore aussi. Marc Knopfler, il en a fait deux. Parce que l'autre qu'il a fait aussi avec la guitare de Marc Knopfler,
Slow Train
Coming, est un chef-d'œuvre aussi. Chrétien, mais.
Alors, nous sommes toujours en compagnie de Melville Poupoupo dans Pop pour parler de la nouvelle création originale de Canal+, OVNI, avec un S entre parenthèses. Pour cette série, Melville, les auteurs avouent avoir été biberonnés à la pop culture des années 90. Ils disent qu'ils avaient plus en tête les affaires de Mulder et Scully que les aventures de De Funès et Villeray. C'était l'intention première?
Non, moi c'était plutôt la soupe aux choux, moi, ma référence.
Oui,
en termes d'extraterrestres, je trouve qu'on peut pas faire mieux.
Mais enfin, il n'a jamais été question dans le scénario d'appeler les extraterrestres en ayant recours à vos propres flatulences.
Non, dans le scénario, non. Après, on a improvisé.
Clémence D'Argent et Martin Douer, les 10 scénaristes, parlent d'un hybride entre X-Files et Mad Men. Donc, ça veut dire que la série est aussi paranormale que sociétale. On parle beaucoup aussi de la carrière des bonhommes contre celle des dames.
Absolument. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein de sujets qui sont abordés, le couple... Voilà, la science, on apprend aussi beaucoup de choses sur la vraie science, parce que Didier Mathieu aime bien s'exprimer à ce sujet, sur l'aérospatiale, effectivement, les vrais phénomènes, tout est très documenté, donc à chaque fois qu'il y a un cas de quelqu'un qui a vu quelque chose, c'est en général inspiré d'un fait réel, une vieille dame qui a vu en même temps qu'un jeune homme une boule dans le ciel alors qu'ils n'étaient pas du tout au même endroit, et c'est pas des fous illuminés, c'est des gens comme vous et moi.
Alors cette image très américaine de la passion pour l'espace est totalement abusive, parce que en fait la France est le seul, je dis bien le seul pays au monde à avoir créé ce bureau tout à fait officiel d'investigation sur les ovnis. Ça veut dire quoi, Melville? Ça veut dire qu'on est les seuls à admettre qu'on fait des recherches sur les ovnis, ou bien qu'elles sont tellement secrètes qu'on nous cache tout?
On nous cache tout, on nous dit rien, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que je connaissais pas du tout le sujet OVNI et l'ufologie avant de rentrer sur la série, mais j'ai découvert que ça passionnait énormément de gens et qu'il y avait des vagues et des modes. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a effectivement eu beaucoup de phénomènes qui ont été aperçus. Après, ça s'est calmé, puis c'est revenu. Là, c'est revenu pendant le premier confinement avec 2-3 images déclassifiées par la NASA. Donc, c'est des vagues comme ça où tout à coup, les gens se penchent sur le sujet et ça les questionne. Moi, j'ai pas d'avis sur la question, à vrai dire. J'étais intéressé de voir que ça partait dans tous les sens, quoi. Et que même le scientifique qui a conseillé les auteurs, qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui est un grand astrophysicien français, lui, il croit pas forcément aux extraterrestres, mais je veux dire, il développe des théories qui sont tellement farfelues et tellement bizarres qu'on se dit aujourd'hui, pourquoi pas celle des extraterrestres.
Mais proposer une série sur la traque des ovnis à un moment où plus personne ne semble croire en rien, même pas en la vaccination, est-ce que c'est un acte de résistance ou un coup de génie?
Je pense que la série parle de beaucoup d'autres choses que juste des ovnis. Et puis les ovnis dont on parle dans la série, on est toujours surpris de voir la forme qu'ils prennent, et puis ça va être encore plus surprenant au fur et à mesure qu'on avance. C'est aussi une façon de parler de gens qui tout à coup sont illuminés par quelque chose et voient quelque chose que les autres ne voient pas, oui.
Mm-hmm. Ça vous arrive, vous, Melville?
Le soir, tard, oui.
Non, mais sans blague.
Moi, ça m'arrive tout le temps. Là, par exemple, je vois un studio de radio, j'ai l'impression d'être moi le présentateur, parce qu'il n'y a personne, à part Marie, ma charmante assistante, mais sinon, je suis seul à la radio, donc je n'avais jamais vu ça avant.
Nous sommes là dans vos oreilles, mais lui...
Absolument. J'apprécie. Mais ça me donne envie d'avoir ma propre émission. Méfiez-vous.
Bon, ici Melville, comme presque la planète entière, nous avons suivi tous les épisodes de l'émission Striptease, et évidemment, celui sur les ovnis. Souvenez-vous.
J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. C'est mais déjà possible. J'ai déjà volé comme ça avec cette soucoupe, même qu'elle n'est pas terminée. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien. Hein. Faut pas oublier que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Bon, il est là, mais il n'y a jamais eu de plan de fait. Hein. Et puis, c'est une conception qui me vient comme ça.
Qu'auriez-vous fait, Melville Foucault, avec ce dossier posé sur votre bureau au GEPON?
Ah, les abductés, comme on les appelle. Les abductés, il y en a beaucoup, finalement. Et il y a même des scientifiques qui pensent qu'ils ont été abductés. Certains même.
Abductés, ça veut dire que les extraterrestres leur ont rendu visite.
Et ou alors qu'ils les ont embarqués dans leur truc et qu'ils les ont ramenés sur Terre, voilà. On en parle dans la série, évidemment. Raël, il a été abducté, par exemple. C'est le grand abducté. Vous le rappelez, Raël?
Oui, très bien, évidemment.
Donc voilà, c'est ça. Après, le dossier, y a certainement pas mal de dossiers qui doivent transiter par l'hôpital psychiatrique. Et puis, on en parle dans la série. Il y a les dossiers où on a une explication scientifique, les dossiers où on a un doute, et les dossiers où là,
Et puis le dossier qui déborde.
Voilà, exactement. Et là, c'est les affaires qu'on n'a pas encore traitées.
Ouais.
Voilà. Mais comme le dit Quentin Dolmer, qui joue Rémi Bideau dans la série, le petit génie de l'informatique, il sort un dossier à un moment et il y a des images qui remontent au Moyen-Âge, à la Renaissance, de gens qui voient dans le ciel des bonshommes dans des boules lumineuses.
Ouais. Votre personnage, Melville, dans la série, ce monsieur mature, mal nommé, va peu à peu sortir de ses a priori terre-à-terre et s'ouvrir à d'autres dimensions de l'existence. Ce qu'il réussit à comprendre, c'est qu'en fait, il comprend rien à rien. C'est votre cas dans la vie, Melville ?
Oui, absolument. Absolument. Et c'est pas mal grâce à son fils qui lui-même essaye de se pique de science et essaye de comprendre les choses et tout ça. Il y a des moments même assez émouvants vers la fin que je peux pas dévoiler, mais où on se rend compte qu'effectivement, en fait, on sait rien de rien. Comme le disait Jean Gabin, je sais, ou Socrate. oui, au bout d'un moment, mais même les scientifiques les plus éminents vous le diront, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de chercher, on cherche, on creuse, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a encore plus à creuser, et puis que c'est infini. Une théorie qui fait école à une époque, fait pas forcément école 20 ans plus tard, et puis on en revient, on en repart, enfin, je veux dire, tout ça, en perpétuelle évolution.
Ça vous trouble, ça vous déstabilise?
Non, parce que moi je trouve d'autres moyens pour me solidifier l'esprit. Enfin, me disons le poser. Bob Dylan, par exemple. Ah, le message que délivre Bob Dylan.
On va y revenir dans quelques instants à Bob Dylan.
Votre précédente apparition dans une série, c'était dans l'adaptation française de la série The Fall, dont l'interprète est Gillian Anderson. Coïncidence, je ne crois pas. La version française s'appelait Insoupçonnable, et pourtant vous l'étiez sacrément. Est-ce que la télé ne serait pas en train de vous offrir une galerie de personnages peut-être plus surprenant que le cinéma?
Pas seulement pour moi. Je pense qu'avec l'expansion des séries, les acteurs ont accès à des super rôles, et puis des acteurs qui ne tournaient pas forcément au cinéma, du coup, ont plus de boulot, faut le dire, ça apporte quand même beaucoup de rôles aux acteurs. Ensuite, ce qui est génial, c'est quand t'as un personnage de série qui te plaît et que tu trouves assez riche et que tu t'amuses à incarner, bah, tu sais que tu vas en avoir pour des heures, éventuellement des années, avec ce personnage. Voilà, le personnage de The Fall, Insoupçonnable, m'a passionné à jouer pendant 8 mois de tournage, c'était génial. C'était une mini-série. Là, mature, j'ai adoré le tourner pour la saison 1. On fait la saison 2. Je suis hyper heureux de le retrouver. J'aurais été très triste à la fin de la saison 1 de pas remettre le costume moule cul et la moustache.
Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs de si particulier dans ce plaisir à développer un rôle? Parce que je vous ai souvent entendu dire que, parfois, à la fin d'un long métrage, vous en aviez assez du personnage, de cette ambiance, vous étiez content de passer à autre chose.
C'est le principe des séries, c'est de vous. Il y a les cliffhangers à la fin de chaque épisode, et puis à la fin de chaque saison, on a envie de voir la suite. J'avoue que même moi, à la lecture du scénario, j'étais un petit peu dans cette disposition-là, en me disant mais qu'est-ce qui va lui arriver à Mathieu? J'ai hâte de voir dans quelle situation il sera à l'épisode 1 de la saison 2, parce que c'est comme quand on est petit et qu'on joue, on invente en même temps les histoires avec ces petits personnages. Là, il y a un petit peu ce côté-là. C'est pas une œuvre close, c'est plus un système qui est créé par le showrunner, enfin les auteurs. Et dans ce système, on évolue jusqu'au moment où on fait le tour du système, comme d'habitude. Là, on sera peut-être lassé, mais c'est pas le cas encore.
Melville Poupeau, l'excellente BO est composée par le compositeur électro Tilassine, mais on entend quand même du Dalida. Est-ce que votre frère Yarol vous adresse toujours la parole?
Carrément. Il y a une reprise magnifique d'un morceau de Dalida, je peux pas tout dévoiler, mais...
Allez-y.
Je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, mais... Dalida. C'est Jean-Charles Cliché, l'inénarrable, qui fait une reprise seule au synthé, et rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder la série.
Pour voir Melville Poupeau boire du whisky en fumant des gauloises, le tout, enfin je crois que c'est des gauloises, oui, avec un Marcel sous la chemise. Rendez-vous sur Canal Plus, c'est dès lundi prochain à 21h et ça s'appelle OVNI. Bien, c'est le moment du pop break, c'est le moment des pop news.
PJ Harvey continue de ressortir sa discographie en vinyle, une initiative aussi appréciable qu'appréciée puisque chaque réédition est augmentée de bonus de toute beauté. Et c'est autour d'un album qui vient de fêter ses 20 ans de revenir faire un tour sur nos platines, Stories from the City, Stories from the Sea, avec en bonus une démo du titre This Mess We're In, qui sur l'album classique est un très beau duo avec Thom Yorke, mais qui en version démo et inédite est un très beau solo. The mess Et la ressortie vinyle de Stories from the City, Stories from the Sea est prévue le 26 février.
Et vous prendrez bien un peu de country aussi. His name is Simpson, Sturgill Simpson from Jackson, Kentucky. Récompensé du Grammy Award du meilleur album country en 2017, il vient de sortir un double album Cutting Grass, volume 1 et 2 donc. Et il était en live chez Jimmy Fallon pour Une vie de péché, Life of Sin. Et voilà, de quoi contenter l'oreille exigeante de Laurent Chalumeau. On vous met évidemment la vidéo sur la page de Pop. Yeah!
Décidément, l'avenir dans la fiction et la science-fiction est très, voire trop agité. Ce sera encore une fois le cas dans le film Zone Hostile, un avenir dans lequel un pilote de drone est envoyé dans une zone militarisée ultra dangereuse et où il va travailler pour un officier très particulier chargé d'empêcher une attaque nucléaire.
Colonel, je cherche le capitaine Léo.
Vous devez avoir sacrément merdé pour vous retrouver avec Léo.
Tu sais pourquoi t'es là ?
Ouais, j'ai brisé la chaîne de commandement.
Harp, il est pas comme nous.
vous êtes...
Je suis ton supérieur et je te donne 60 secondes pour t'y faire.
Oui, capitaine.
Cool.
J'en envoyais de se faire à l'idée que son supérieur est un androïde. L'androïde en question, c'est Anthony Mackie, abonné au corps augmenté, hein, puisqu'il est le Falcon d'Avengers. On y croise aussi Pilou Asbeck, le Euron Greyjoy de Game of Thrones et Zone Hostile. Ce sera le 15 janvier sur Netflix.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Sturgill Simpson.
Mais oui, évidemment, ouais. Bravo Charline. Melville Poupeau dans la suite de Popopop. Il va être question de l'inspecteur Colombo, du film Invasion Los Angeles et de Bob Dylan encore et toujours. Ce sera juste après un petit Bashung, résident de la République, clip dans lequel, comme me le rappelait Charline, figurait un certain Melville Poupeau.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes faits ce que tu veux. Parlerai-moi, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, 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 je sais pas, pas.
Résident de la République, Alain Bashung, c'était en 2008 sur l'album Bleu Pétrole. Et donc, on se souvient de ce clip dans lequel vous apparaissiez, mon cher Melville. Ouais. L'album s'appelait Bleu Pétrole, c'est la raison pour laquelle vous écriviez mystérieusement dans ce désert bleu avec du pétrole.
Peut-être, une espèce de land art. Mais c'était un très beau souvenir, on avait tourné dans l'Arizona et... Alain Bashung n'avait pas pu venir avec nous, du coup c'est pour ça qu'il m'avait engagé, je faisais un petit peu le remplaçant, mais j'ai eu une journée de tournage avec lui, c'était au tout début de son cancer, et c'était très émouvant et très triste, parce que j'ai toujours été grand fan de lui, ouais. Et en même temps on a passé des bons moments, après on s'est revus, et je l'aimais énormément, et je suis un grand fan de sa musique.
Sa musique a beaucoup compté pour vous,
énormément.
Vous a inspiré.
Inspiré, je sais pas, mais en tout cas, c'est avec Gainsbourg, c'est mon parolier, enfin, c'est pas lui qui écrit les paroles, mais je veux dire, c'est mes chanteurs français dont je préfère les textes. Ce que j'adore avec Bachung, c'est que on a beau connaître par cœur plein de ses chansons, à chaque fois qu'on se les redit ou qu'on les réécoute, on comprend quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un mystère dans le texte et un humour que je trouve génial.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Ça, c'est la musique du générique du dessin animé des années 70, Il était une fois l'homme. C'est ce vieux sage à la barbe blanche qui vous évoque donc la pop culture, Melville Poupeau.
Bah oui, bah déjà parce que je regardais ça quand j'étais petit avec mon frère à la télé, et notre père à peu près à l'âge du fils de Didier Mathieu dans la série. Et on voit ce générique dans la série à un moment, et tout à coup ça devient très émouvant parce qu'il y a quelque chose de prophétique, malheureusement tristement prophétique, dans ce générique. Avec cette musique, ces dessins un peu manga, et à la fin, après avoir traversé en quelques secondes l'histoire de l'humanité, ils montent dans une fusée, ils s'échappent dans l'espace et la Terre explose derrière eux. Mmh. Et il y a un côté, c'est beaucoup, mais tout à coup, ce générique pop de l'enfance, du dessin animé, devient un objet émouvant de l'histoire. Quoi.
Ah ben, Melville Poupeau, j'ai une barbe blanche.
Je suis un fourra, ça.
Plutôt sage moi-même. Je vous invite à me suivre pour parler de pop culture. C'est l'heure de votre pop list. Alors, un livre, un film, une musique, un personnage de série pour le livre, vous avez choisi Électrique de Yarol Poupeau. Charline, n'est-on pas là, considérant qu'il s'agit de l'autobiographie du frère de Melville, devant un pur cas de népotisme?
Oh non, je crois pas, non Antoine. Une excellente autobiographie à laquelle nous avons d'ailleurs consacré un pop-pop. Ah bah. Yarol le Vénusien, il raconte son parcours, ses disques, ses photos, ses guitares, bref, 40 ans, mais comment fait-il pour que ça ne se voit pas de scène et de son?
Absolument.
Melville, auriez-vous la gentillesse de nous lire un extrait du livre de votre frère, s'il
Bien
vous plaît?
Bien sûr, un extrait que je n'ai pas choisi moi-même. Mais à partir de 2001, chez Salam, je termine d'abord l'album solo de Melville, commencé dans les derniers mois de l'hôpital éphémère. Un simple appareil sort l'année suivante. Nous passons de longs mois à le peaufiner. Jouer de la musique ensemble, nous l'avons toujours fait, mais là, c'est particulier. Si je réalise le disque, il s'agit avant tout de son projet, de A à Z. Je suis bluffé par la qualité de ses chansons et la force de ses paroles quand je pense que je lui ai appris ses premiers accords de guitare. Bon, c'est lui qui parle, hein, parce qu'il est hyper gentil, c'est le moment
c'est où
il est plus gentil. Non, les accords de guitare, c'est vrai, mais j'ai pas continué longtemps la guitare, vu le phénomène que c'est Yarol. Il n'y avait pas de raison d'avoir deux guitaristes dans la famille, et j'aurais jamais été même... je serais jamais arrivé à son niveau, même à la cheville. Donc je suis passé sur d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé faire de la musique avec mon frère. J'aime aussi faire de la musique avec Benjamin, qui est presque comme un frère violet. C'est un truc de famille et de camaraderie que j'ai depuis l'enfance. Et c'est vrai que mon frère, que j'admire énormément, c'est pour ça que je me suis permis de choisir son bouquin, c'est parce que pour moi, c'est un être culte. Et comme c'était l'appellation, j'ai choisi son livre qui est très intéressant, qui parle de musique, mais pas seulement, il parle aussi de la France, en tout cas des fans de musique et de rock, notamment en France, depuis les années 70.
Ne dites pas que c'est un livre que votre frère vous a offert pour Noël pour économiser un cadeau.
Non, c'est pas le genre.
Non. Bien, pour la suite, direction Los Angeles, car vous avez choisi le film de John Carpenter, Invasion Los Angeles. Charline, si je ne m'abuse, il y était déjà question d'extraterrestres. Doit-on en conclure que Melville serait légèrement maniaco-obsessionnel?
J'en ai bien peur, Antoine. Un ouvrier au chômage découvre un groupe qui fabrique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie une paire et découvre que de nombreux humains sont en réalité des extraterrestres. Avec un autre ouvrier, il entre en résistance.
Regarde!
Je crois bien qu'ils nous ont reconnus.
Continue de regarder. La situation te paraît-elle un peu plus claire à présent? Là-haut, c'est quoi? Mon frère, une nouvelle vie commence pour nous.
On aura bien entendu reconnu la version française d'une Invasion.
Il faut préciser que ces râles sont l'objet d'une bagarre et non pas autre chose entre ces deux culturistes.
Vous avez vu la soupe aux choux en version américaine?
Non, je serais curieux. Je sais pas comment, mais c'est déjà l'américain, je crois. Non.
Et alors pourquoi est-ce que vous aimez tellement ce film de Carpenter?
En fait, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je suis fan de Carpenter et c'est un film qui est hyper visionnaire. Je crois que c'est 1988 et c'est l'histoire d'effectivement ce catcheur hyper musclé. Ça commence comme une espèce de film presque de Ken Loach sur le chômage aux États-Unis. Et puis, il trouve une paire de lunettes et il se rend compte qu'en fait, tous les messages publicitaires sont codés et vous disent... C'est de là que vient le fameux Obey de Shepard Fairey, le graphiste. Ouais, ouais. Donc voilà, grâce à ses lunettes, il voit la réalité en face et qu'on est dans un monde corrompu.
Melville, je mets maintenant mon impair pour la suite et je cherche ma femme. Alors non, ce n'est pas un camoulox, mais une habile transition pour dire que vous choisissez Columbo pour la série. Mais, vous ne choisissez pas l'inspecteur qui mâchouille son cigare à longueur d'enquête, mais les tueurs dans la série. Alors Charline, qui sont-ils ces méchants que l'inspecteur doit débusquer avec sa légendaire sagacité de poulet?
Ah oui, Columbo. Eh bien, ceux dont on découvre le nom dès le début de l'épisode. Des criminels incarnés par exemple par Ross Martin, le Artemus Gordon, dans l'épisode Suitable for Framing, par Patrick McGowan dans l'épisode Don't Hurt the Light, par Johnny Cash dans l'épisode Swan Song ou encore par Leonard Nimoy, oui, Monsieur Spock, dans A Stitch in Crime.
I believe you killed Sharon Martin and I believe you're trying to kill Dr. Heidemann.
It's on your mind. What possible reason could I have for killing her?
You ask tough questions, Doc.
So does the jury.
Melville Poupeau, qu'est-ce que ça raconte de vous? Ça, vous préférez les tueurs à l'inspecteur Columbo?
Non, j'adore l'inspecteur Columbo et je crois que je me rappelle qu'on avait fait votre émission avec mon frère il y a quelques années. Vous allez dire que c'est encore un cas de... Mais on avait déjà dit, je crois que j'avais déjà dit Columbo, donc là je me suis mis de l'autre côté. Les tueurs, non mais les tueurs parce que c'est toujours des acteurs géniaux qui les jouent, ils prennent beaucoup de plaisir à jouer ces personnages et qu'en fait ils sont toujours un peu pareils, c'est toujours le même mode Columbo. On voit au début le mec très sûr de lui, très méticuleux qui réussit son coup, après le tueur arrogant qui se fera jamais débusquer et qui est très sûr de lui et il se fait déstabiliser par Columbo, puis à la fin il devient agressif et puis il y a une espèce de comme ça de truc un peu psychologique de la mécanique intellectuelle psychologique du tueur que j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup quand j'étais petit pour moi c'est Peter Falk, c'était l'acteur de Cassavetes et le pauvre, il avait eu affaire Columbo. Et en fait, en regardant beaucoup Columbo, je me suis dit non, c'est l'acteur de Columbo qui a aussi fait des grands films avec Cassavetes. Mais je veux dire, ça lui enlève rien d'avoir été Columbo pendant si longtemps.
Parfait. Maintenant, Melville, passons au plat de résistance, puisque nous terminons cette pop liste avec votre morceau culte. Et cette chanson, sans surprise, c'est une chanson de Bob Dylan. Mais alors, pas n'importe laquelle, c'est un morceau qui occupe à lui seul la face B de son dernier album. S'il y a encore des faces
la face 3, B, je crois.
Phase 3, pardon. Puisqu'il dure 17 minutes et que c'est un long poème sur cette journée du 22 novembre 63 à Dallas, le jour de l'assassinat de Kennedy. Avant d'en écouter un extrait, dites-nous-en deux mots.
Eh bien, c'est une chanson qui m'a vachement aidé quand elle est arrivée en plein milieu du confinement, parce que à ce moment-là, comme tout le monde, j'ai eu une petite baisse de régime. Ma fille avait chopé la crève, et donc j'attendais que ça passe, et avec beaucoup de... comme tout le monde, quoi, dans cet état-là. Et il a... ce jour-là, balancer une nouvelle chanson, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, une nouvelle composition originale, et en plus la plus longue, et en plus un texte fantastique que je me suis dit, tiens, je vais le traduire, ça me fera passer le temps, et puis ça va me soulager les nerfs. Et en fait, j'ai passé 2 jours à traduire cette chanson que j'ai adoré traduire. Et j'ai essayé par la suite d'en traduire d'autres en disant, ça y est, je suis le traducteur de Bob Dylan. Impossible, c'est la seule que j'étais capable de faire correctement, avec les rimes et tout, les autres, pas possible. Donc c'était un one shot. Mais il m'a bien aidé Bob là, ce coup-ci, il m'a bien sorti de la panade.
Alors, difficile de passer un morceau de 17 minutes, qui plus est en anglais sur l'antenne.
Et c'est son plus long morceau, et c'est son premier numéro 1 américain depuis, je crois, Hurricane ou un truc.
Oui, mais enfin bon, voilà, nous sommes sur l'antenne d'Inter, il est entre 16h et 17h, difficile de passer un morceau de 10 minutes, même si vous me direz, on passe bien des chansons de Vianney qui durent 2 minutes 15, mais aucune raison de ne pas en écouter.
Le temps est multiplié, c'est
quelques mesures, les toutes premières.
T'was a dark day in Dallas, November 63. A day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing and the timing was right.
Tué comme un chien en pleine lumière du jour, Murder Most Fool, cet extrait de Rough and Rowdy Years, le dernier album publié l'année dernière par Bob Dylan, et donc traduit ce titre par Melville Poupeau. On la trouve où cette traduction, Melville?
Bah, elle est passée sur un compte Universal Classics, je crois. Enfin, tout ce que je sais, c'est que grâce à mon ami Yazid Manou, qui est un grand attaché de presse de la musique en France, elle est arrivée sur le bureau de Jeff Rosen, le manager de Bob Dylan, qui l'a validée aussi sec et qui a autorisé à ce qu'on la mette sur le site officiel de la maison de disques. Wow. Et là, je veux te dire que c'était un des plus beaux jours de ma vie.
Wow. Et là, je dis monsieur.
J'étais à une personne de Bobby.
Je dis Monsieur Poupeau.
Bon. Merci Antoine.
Très bien, bravo.
Tu sais que je le répète à chaque fois qu'on a l'occasion de se croiser, mais c'est grâce à toi que j'ai serré la paluche à Bruce Springsteen, dont je suis devenu un grand fan aussi.
Qui ça? Pardon, excusez-moi, de qui parle-t-on?
Bruce, Monsieur Bruce.
Supplie.
Et Antoine, bon. À la vie, je suis reconnaissant.
Melville, je résume. Electric Invasion Los Angeles, Les Méchants de Colombo et Bob Dylan. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
I believe you killed Sharon Martin, and I believe you're trying to kill Dr. Hyde.
Look out!
It was a dark day in Dallas, November 63.
It's on your mind.
Continue de regarder. La situation te paraît-elle un peu plus claire à présent?
A day that would live on in infamy.
Là-haut, c'est quoi?
Jouer de la musique ensemble, nous l'avons toujours fait, mais là, c'est particulier. Il s'agit avant tout de son projet.
Good day to be living and a good day to die.
Ah, wow. Et mon mix, c'est pas du popo?
La bande-son de l'Apocalypse. Magnifique.
Bon, c'est votre bande-son à vous, Melville Poupeau. Oui. Je peux pas proposer à un Dylanophile de terminer l'émission par un autre morceau que du Dylan, évidemment.
Yes.
Donc, on va écouter un de mes petits préférés, c'est extrait de Slow Train Coming, période Born Again. Hein,
mais bien sûr, le premier.
Il nous aura tout fait, décidément. Et c'est Do Right to Me, Baby.
Nobody, don't wanna be betrayed. Don't wanna
Et voilà pour finir en beauté ce bien. Pop avec Melville Poupeau, Bob Dylan, Do Right to Me Baby, extrait de Slow Train Coming. Merci mon cher Melville de nous avoir rendu visite.
Merci à vous deux.
OVNI, c'est à partir de lundi prochain à 21h sur Canal+. C'est une série chaudement recommandée par Pop.